Cette semaine à l'émission, sœur Doris Lamontagne nous présente son bon ami François de Laval et Valérie Robert-Gidion revient sur 3 siècles et demi d'histoire de l'Église à Québec. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et culture, ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cette émission où il sera question d'histoire et plus particulièrement de l'histoire du diocèse de Québec qui souligne en 2024 le 350e anniversaire de sa création et j'ai le bonheur d'être accompagné aujourd'hui de Valérie Robert-Gidion. Bonjour Valérie.
Bonjour Antoine.
Alors, directrice des communications au diocèse de Québec. Es-tu une férue d'histoire, toi, ou tu as développé ça par la force des choses?
J'aimais l'histoire au secondaire, là, mais j'ai vécu des très, très belles découvertes pendant les derniers mois en me préparant au 350e du diocèse. J'ai lu un roman historique sur Marie de l'Incarnation qui m'a renversée. Alors, j'étais accro. Alors là, je peux dire que j'ai du fun. Là.
Maintenant, oui. Alors, tu vas nous en parler nécessairement de cette découverte-là plus en fin d'émission. Tu évoquais les fêtes du 350e, la préparation que ça a nécessité. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus?
Moi, ça fait 2 ans, je pense bien, qu'on commence à y penser. Et... ouais, ouais. Et il y a des gens avant moi qui ont pensé à le volet publication historique, de mettre en marche des chercheurs qui commencent à travailler sur des ouvrages intéressants.
Oui, parce que ça s'improvise pas en
quelques
semaines.
Non. Ouais, c'est plusieurs années de fouilles et de recherches. Alors, c'est un long processus.
Alors, c'est ça, comme je le disais, tu auras l'occasion de nous en parler un peu plus tard. Merci d'être avec nous. Simon Lessard, allô?
Bonjour Antoine.
Toi, l'histoire, ça te passionne?
Moi, l'histoire, j'aime ça un peu comme Valérie, à travers les personnes, en fait. Donc, les biographies, c'est comme ça que j'aime notre histoire du Canada, du Québec. J'aime vraiment découvrir des figures inspirantes.
Ça tombe bien parce que...
Mais les dates, je suis vraiment pas bon. Là. C'est pour ça que j'ai des petites fiches pour les dates aujourd'hui.
Ben, ça tombe bien parce qu'il y en a plusieurs personnages marquants dans l'histoire du diocèse. Mais avant d'aller là, peut-être des données importantes à retenir.
Ouais. Antoine, je t'ai préparé une fiche technique.
Aïe.
Pas tant du diocèse de Québec que quand on y pense, c'est la première communauté chrétienne en Amérique du Nord. Donc, c'est pas juste pour les gens de Québec. Là. Mm. C'est vraiment pour tous ceux qui ont la foi chrétienne catholique en Amérique du Nord. L'origine de la foi, c'est ici à Québec.
On a eu du courrier il y a quelques années d'un auditeur qui nous écoutait de Louisiane. Alors, on le salue s'il nous écoute. À une certaine époque, il était dans notre diocèse, cet auditeur-là.
Ben oui. D'ailleurs, sais-tu le nombre de diocèses qui viennent du diocèse de Québec aujourd'hui en Amérique du Nord?
En avoir une trollée, je sais
c'est
pas.
C'est 160.
Non.
Aux États-Unis et au Canada.
Qui sont des
qui sont issus
des rejetons,
à l'origine, de multiples divisions du diocèse de Québec. Donc déjà, ça montre l'influence qu'a eu ce diocèse sur l'ensemble de l'Amérique du Nord.
Valérie, oui?
Il faut juste préciser, au nord des colonies espagnoles. Donc, tout ce qui était Nouvelle-France, au fait, maintenant, ça l'a essaimé. Et puis, le 350 ans d'histoire, ça concerne bien des gens. Bien des gens peuvent se retrouver dans cette histoire de revisiter leur patrimoine, leur histoire et retourner aux sources un peu de la foi. Mmh. Ouais.
Oui, Antoine, si on va à quelques dates pour quand même situer, là, en 1658, c'est l'établissement du vicariat apostolique de la Nouvelle-France à Québec, qui jadis était rattaché à quel, parce que ce n'était pas encore un diocèse, à quel diocèse, avez-vous une idée? Ou au moins quel pays,
toi, j'imagine que vous avez ta face. Ben, la France, là, c'est ça, mais où?
Là, je vais avoir l'air fine, là, si je ne dis pas la bonne réponse. Je vais-tu perdre ma job?
Ben, je pense pas, là. Je pense que tes patrons sont miséricordieux.
Là, je dirais la France, mais c'est peut-être une autre histoire, là.
C'est en France, mais c'est Rouen.
Rouen,
qui était, je crois, le plus près physiquement de l'Amérique. Donc, je pense qu'il y a eu tout un débat. Là. L'archevêque voulait garder ce territoire-là pour lui à Rouen. Et puis finalement, un an plus tard, en 1659, c'est l'arrivée de Monseigneur de Laval, le premier évêque de Nouvelle-France, là, pour une population dont vous estimez à combien d'habitants à l'époque?
Il ne va pas avoir grand monde, hein? Peut-être 1000, 2000 personnes.
T'es proche, Antoine.
Il est vraiment ça coche, hein?
Parce que
c'était 1500?
Ben, moi, j'ai 1050.
Non. 1050, bon.
1050. mais quand même. Donc, environ 1000 personnes.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et puis, ben, c'est en 1174 qu'on a la fondation du diocèse. Donc, ça a été le premier évêché du Nouveau Monde, au nord du Mexique, comme disait Valérie. Donc, si c'était en 1174, on fête 350 ans en 2024. Et bien, petit fait intéressant aussi, en 1819, le diocèse a été élevé au rang d'archidiocèse. Et petite colle, quels sont les diocèses suffragants de l'archidiocèse de Québec?
Ben moi, je suis un gars du bas du fleuve, donc je sais que le diocèse de la Pocatière est suffragant.
Exactement.
Saint-Anne de la Pocatière.
Saint-Anne de la Pocatière, oui. D'autres idées?
Il y aurait Trois-Rivières.
Trois-Rivières, oui. Et il y en manque un?
Chicoutimi.
Chicoutimi.
Oh, oh!
Donc, voilà. Autre chiffre, Antoine, il y a, combien de baptisés tu penses qu'il y a dans le diocèse de Québec?
Ouais,
peut-être
est...
pas le nombre de monde qui vont à messe tous les dimanches, ça, de baptiser.
Ouais. C'est pénible comme émission aujourd'hui.
Ouais, ouais, je me fais cuisiner. Non, mais allons-y simplement. Là, on est quoi, 600, peut-être proche 800 000 personnes à vivre dans la région de Québec. Ajoutons la Beauce, Charlevoix, on doit approcher du million.
Oui, t'es proche, c'est 982 000 baptisés.
Je suis très proche, Simon.
Oui, oui,
oui. Vraiment un
sur 1,38 milliard de catholiques dans le monde, ce qui représente 0,07%.
C'est presque 1% de la population catholique mondiale.
Pas presque 0,1%. C'est pas tout à fait pareil. Je t'expliquerai les mathématiques après l'émission, Antoine.
Non, là, je pense que tu te gourres, mais
okay,
continue.
C'est bon. Sinon, ben, autre petit fait intéressant, il y a 229 églises en ce moment dans le diocèse de Québec, regroupées en 40 paroisses et 15 unités missionnaires. Et il y a quand même aussi une soixantaine de communautés religieuses et une soixantaine de mouvements aussi dans ce diocèse-ci. Et combien d'évêques il y a eu dans toute l'histoire, dans les 350 ans?
Ça, je peux pas dire.
Non?
Non.
Valérie, tu le sais.
L'archevêque actuel est le 25e cardinal.
25e? Bon, moi, j'avais 24e. Va falloir qu'on...
C'est le 24e successeur de François de Laval.
Je pense que tu es là pour me corriger. Donc, 24e successeur, donc 25e évêque du diocèse. Bon, merci Valérie. Et enfin, il y a 4 édifices du diocèse qui font partie du site patrimoine mondial de l'UNESCO, là, l'arrondissement du Vieux-Québec. Quels seraient ces 4 édifices à grande valeur patrimoniale mondiale?
Ben, la basilique, non? La basilique cathédrale?
Alors, elle n'est pas dedans parce que, évidemment, je pense qu'elle a passé au feu, donc elle est un peu plus récente suite à sa reconstruction. On a la chapelle des Jésuites.
Okay.
Ouais. On a...
Où il y a les reliques des saints martyrs canadiens.
Exactement.
Ouais.
Tu avais une autre idée, Valérie?
Notre-Dame des Victoires.
Notre-Dame des Victoires.
Hey, Notre-Dame des Victoires est classée, son sous-sol est classé et le sol sous le sol est classé.
Wow. Hey, tout est classé, fait qu'on ne peut plus rien toucher à ça, c'est ça. Et puis, ben, on a évidemment aussi la chapelle des Ursulines de Québec et le monastère.
Qui a récemment été complètement revampée, restaurée. Il paraît que c'est un
joyau.
Chef-d'œuvre.
Ouais. Oui, exactement. Et aussi le monastère des Augustines, rattaché à l'Hôtel-Dieu, qui est le premier hôpital en Amérique du Nord.
Merci beaucoup, Simon.
Ça fait plaisir, Antoine.
Et maintenant, notre invité de la semaine, un de ses plus grands amis, est un évêque du 17e siècle. Accueillons cette vraie passionnée de François de Laval, sœur Doris Lamontagne. Sœur Doris, bonjour et bienvenue, on n'est pas du monde.
Ça me fait plaisir.
Alors, vous êtes membre de la Congrégation des Petites Franciscaines de Marie depuis 1982. Vous avez mis sur pied le Centre d'animation François de Laval à Québec. Ça, c'est un peu sur le côté de la basilique cathédrale. Hein,
bien, c'est à l'intérieur de la cathédrale. C'est l'ancienne chapelle de Saint-Vincent-de-Paul qui a été convertie en centre d'animation quand le tombeau de Monseigneur de Laval est revenu à la cathédrale en 1993.
Ouais, on avait fait une émission sur l'épopée là, ou les aventures de ce tombeau-là qui s'est promené pas mal avec notre ami Emmanuel Lamontagne. Vous en souvenez?
Ah, moi, je m'en souviens.
Ah ouais, c'est assez impressionnant.
On peut être pèlerin même après sa mort.
Mais c'est ça.
Ça a été inauguré quand, ça, ce centre d'animation-là?
Bien, c'était inauguré avec la translation des restes, là, 1993, où là, il fallait mettre sur pied le centre Monseigneur de Laval. Ouais. C'est comme ça que j'ai été repêché et que j'ai pris le service à l'été 1993.
Ah oui. Donc, ça fait déjà une trentaine d'années. Vous avez aussi publié 2 livres sur le premier évêque de la Nouvelle-France. D'ailleurs, on célébrait en avril 2023 le 400e anniversaire de naissance de François de Laval. Sœur Doris, dites-nous tout. Dites-nous tout. À quand remonte votre coup de foudre avec François?
Ben, mon premier contact, c'est drôle, c'est en 1982 avec des amis. J'étais à Québec, puis c'est une amie à moi qui... On est allé prier au tombeau de Monseigneur de Laval. Donc, une fille, moi, je suis venue à Chibougamau, puis une fille du Saguenay, tu sais, bon, je me souviens, puis j'avais prié pour ma vocation. Mais j'étais loin de m'attendre. Bon, là, je suis entrée en communauté quelques mois plus tard, puis j'étais loin de m'attendre presque 10 ans plus tard d'être, je dis repêchée, parce que c'est par un professeur de l'Université Laval que j'ai appris ce poste-là, puis on me téléphone pour me l'offrir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'ai pas été engagée pour mes compétences parce que je ne connaissais rien sur François de Laval. J'avais dit que je serais plus à l'aise de parler de François d'Assise que François de Laval.
En tant que petite Francine.
Ben oui, c'est ben ça. Oui. Je connaissais plus l'un que l'autre.
Oui.
Mais dès le départ, quand j'ai commencé, ce qui m'a... Bon, je ne dis pas si ça a été le coup de foudre, mais comme je suis une fille de Saint-François d'Assise, je me disais, c'est comment faire aimer l'Église à travers un homme d'Église? Parce que je trouvais que son problème à lui, c'est d'avoir été évêque. Parce que les gens, surtout quand j'ai commencé à le côtoyer, moi, dire ça comme ça, ce que je voyais, c'est que les gens disaient, ben, tu sais, il y a eu des problèmes avec l'eau de vie, puis tu sais, avec les Ursulines. Fait que c'était tous des aspects liés à la gouvernance. Fait que quand tu gouvernes, il faut que tu prennes des décisions.
Et ça déplaît à des gens, nécessairement.
Ben oui, puis on était, tu sais, dans les années 80, puis bon... 90, puis toutes les figures, je dirais, d'autorité, quand tu es dans des crises d'adolescence collective, tu les rejettes. Donc, c'est pour ça que, dès le départ, je me suis plus collée à la spiritualité, de dire, ben, qu'est-ce qu'il y aurait comme spiritualité? Comment pourrait-il nous inspirer pour aujourd'hui?
Ben, justement, c'est une de mes questions. S'il faisait partie d'une grande famille, là, comme ben, les franciscains ou les dominicains, on pourrait facilement se dire, ah, ben, il y a une spiritualité. Il y a une spiritualité dominicaine. Mais là, c'est un prêtre séculier avant d'être évêque. Comment on peut le catégoriser là, dans sa spiritualité?
Ben, il fait vraiment partie de ce qu'on appelle l'épopée mystique du 17e siècle.
Dont,
je dirais, la Nouvelle-France est issue. Parce que, tu sais, c'est le Nouveau Monde. Quand les Jésuites le découvrent, ben, c'est pas les Jésuites, mais quand on découvre là, l'Amérique du Nord, on cherchait des terres. Et ben, déjà, ça, si on est suite, là, il faut retourner pas mal à l'histoire. Ça fait un peu complexe dans toute l'histoire de l'Église. Mais, tu sais, on est en plein, là, c'était le Concile de Trente, c'est tout le renouveau, puis l'épopée mystique. Puis tous ces gens-là, cette élite-là de française, bien, c'était de retrouver une vie intérieure. Donc, Monseigneur de Laval, avant d'arriver ici, là, il a été 4 ans à l'Ermitage de Caen, sous l'autorité d'un laïc, puis pour vraiment un renouveau spirituel. Donc, c'est vraiment quelqu'un là, qui a comme une flamme. D'ailleurs, quand je travaillais sur le livre « L'actualité des repères missionnaires », c'est là que j'ai vu que le missionnaire, il est prêt à donner sa vie pour la cause du Christ. Donc, c'est un enflammé.
Et cette flamme-là a été, disons, attisée, alimentée dans une vie intérieure intense en amont de cette mission-là.
Oui, profondément. S'il a pu tenir dans la tourmente, c'est parce qu'il y avait des racines profondes. C'est vraiment les racines profondes, sa vie, la suite du Christ, son enracinement très profond qu'il a pris aussi à l'école des Jésuites. Il a été un étudiant des Jésuites. Ah. Donc, tout cet apprentissage, que je dirais, de relire ton expérience de vie, ton expérience de baptisé à la lumière de l'Évangile dans une relecture spirituelle. Donc, c'est vraiment dans un climat de renouveau spirituel, mais en profondeur, pas en superficie.
Oui. Vous dites, dans la tourmente, il est arrivé ici, il y a eu nécessairement des défis, des épreuves importantes. Lesquelles sont les plus marquantes dans son parcours à François de Laval, Sœur Doris?
Ben, je te dirais, le premier, c'était pas le premier choix. Parce que... Plus ou moins, parce que tu l'avais dit tout à l'heure un petit peu, là, tu sais, sur la problématique de qui, puis l'évêché de qui, puis de quoi.
Ouais.
Puis on va l'informer alors qu'il est à l'Ermitage de Caen, qu'on pense à lui pour venir comme évêque. Puis, tu sais, c'était cinq sa nomination. Fait qu'il va dire, ben si c'est la volonté de Dieu, ben je vais m'y soumettre, là.
C'est pas son plan de carrière.
Non. C'est pas un carriériste.
Est-ce que c'est vrai qu'il a été ordonné presque en cachette?
Oui, l'ordination épiscopale, oui. Parce qu'au début, il devait être... ça devait être le 4 octobre. Puis là, ça n'a pas marché. Et finalement, il a été ordonné évêque à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés de Paris parce que c'était un territoire neutre. Et parce que justement, il y avait la problématique avec le vicariat épiscopal, puis il y avait l'évêque, le diocèse de Rouen, là, dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'il y avait un sulpicien qui avait des, se revendiquait comme évêque, dépendant de l'évêché de Rouen. Donc, c'était est-ce que Québec dépend de Rouen ou est-ce que Québec dépend de la propagande de la foi? Donc, c'est comme ça que la nomination a été controversée. Et quand il va arriver ici, Marie de l'Incarnation va dire, il arrive avec un titre qu'on ne connaît pas trop, c'est quoi? Vicaire apostolique en Nouvelle-France. Il était évêque de Pétré. Des fois, je disais, bien, il était un peu dans le pétrin. Mais, tu sais, mais il est arrivé... Il était évêque, mais on lui avait confié le territoire. Puis ça a pris 15 ans avant la reconnaissance officielle de l'évêque de Québec. Oui, oui, quand même.
Il avait une légitimité à moitié assise, là, finalement. Il était reconnu, mais.
Mais ça ne l'a pas empêché. Mais ça ne l'a pas empêché d'être tout de suite en tenue de service. Puis dans ses premières actions, là, c'est assez étonnant. Il arrive, puis ça va faire la tournée du diocèse. Il va aller à cette époque-là, Trois-Rivières, Tadoussac, Québec, Montréal, en canot, en raquette. Il va déjà commencer à faire ça. Il va tout de suite mettre en place le séminaire de Québec, la confrérie de la Sainte Famille. Donc,
il n'y a pas avec la POC.
Ah non, il n'attendra pas d'avoir le titre pour être en service. Là.
Uh-huh. Bon, une fois arrivé, il y a d'autres épreuves qui l'attendent. Certainement, dans la gouvernance, là, on en parlait hors d'onde. Qu'est-ce qui a été plus difficile pour lui, les décisions importantes qu'il a dû prendre dans ses années d'épiscopat ici?
Bien, là, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'était plus difficile ou moins difficile. Bien, c'est sûr qu'il y a toute la question de l'eau de vie qui était quand même une préoccupation.
Pourquoi?
Bien, parce que quand tu veux servir la cause de l'Évangile puis que tu te retrouves dans la gouvernance, parce qu'il faut penser aussi qu'il est membre du Conseil souverain. Donc, c'est un bras droit du roi, ici en Nouvelle-France. Donc, quand le roi va le nommer au niveau membre du Conseil souverain, il va se retrouver entre les intérêts de l'Évangile et les intérêts politiques. Donc, lui-même, il va dire que...
C'est inconfortable, quand même.
Bien, je pense, là, tu sais, quand il va dire que le seul intérêt, c'est l'intérêt de Dieu, entre ses valeurs personnelles et les valeurs de ambiante, donc de faire des choix, je dirais... Mais tu sais, c'est un homme de droiture et de justice. Donc, son intérêt le plus grand, ça va toujours être celui pour le plus pauvre, le plus faible. C'est pour lui qu'il va défendre. Puis, je dirais que son seul intérêt, c'est l'intérêt de Dieu. Puis pour la... Marie de l'Incarnation, d'ailleurs, va dire que quand il en est de la gloire de Dieu et du salut des hommes, voire même qu'il est entêté et inflexible.
La querelle de l'eau de vie, c'est que c'est l'alcool qui était distribué ou vendu aux Autochtones, c'est ça?
Bien, c'est toute la question de la... Moi, je le placerais ailleurs. Je dirais que c'est la question de la dignité de la personne et de l'exploitation qu'on peut faire qui met en péril la dignité de la personne. Donc, ce qu'il défend, c'est la dignité humaine et avant tout, parce que le commerce crée le déséquilibre et c'est les conséquences qu'avait l'eau de vie sur le peuple amérindien, où il voyait la violence, il voyait les abus à tous les niveaux, abus physiques, abus, tu sais, parce que ça a été prouvé dans les années après que les Amérindiens, avec la consommation d'alcool, ils perdaient le nord, comme on dirait là. Donc, c'est les conséquences liées et l'abus entre ceux qui vendaient les fourrures puis ce qu'on donnait en échange. Donc, c'est tout ce commerce-là dans l'injustice.
Au nom de la dignité des personnes
puis de l'intérêt, tu sais, je veux dire... c'est plus ça. Si on le met sur une personne pour qui il y a des valeurs ou la première valeur, c'est la personne humaine et sa dignité, bien, ça met un porte-à-faux entre les valeurs que tu promeus et l'exploitation qui est faite. C'est ça qu'il défend avant tout.
Sœur Doris, on l'a évoqué un peu justement par cet épisode-là. Ça ressemblait à quoi sa relation avec les Premières Nations? Parce qu'on parlait d'environ 1000 habitants, 1000 colons qui étaient là sur place, mais il y avait d'autres personnes qui habitaient le territoire aussi. Les Premières Nations étaient déjà là depuis plusieurs années. À quoi ressemble sa relation avec les membres des Premières Nations, François de Laval?
Bien, moi, j'irais plus sur des exemples concrets.
Allez-y.
C'est quand il arrive à Tadoussac, puis là, les Amérindiens savent qu'il arrive, ils vont tirer des coups de fusil en l'air parce qu'ils sont heureux qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je dirais le mot, c'est proximité. Il va aller les visiter, il va rentrer dans les tentes, il va se faire proche d'eux. Un même fait qu'on voit à un moment donné, il y a une funéraille à la cathédrale, puis c'est un chef amérindien, puis il ouvre la cathédrale pour célébrer les funérailles. Et ça dit que les Amérindiens ne savent pas s'ils vont pleurer à cause de la mort du chef ou de leur joie que l'évêque célèbre les funérailles du chef amérindien dans la cathédrale. Donc, les Amérindiens l'avaient surnommé Ariawagi, l'homme de la... Ariawagi est un chef indien, mais Ariawagi étant l'homme de la grande affaire. Donc, l'homme à qui on reconnaît qu'il prend soin de nous. Et tu sais, puis aussi, ben, pour les cérémonies religieuses, c'est bon. Donc, il y avait une reconnaissance du peuple amérindien de la manière dont il les a défendus dans les intérêts et dans sa proximité. Et moi, j'oserais presque dire qu'il ne faisait pas de différence. Tu sais, je veux dire, quand on parle aujourd'hui d'un amour inclusif, ben, à mon point de vue, Monseigneur de Laval était à ce niveau-là. Il n'était pas... était dans la distinction.
À faire le tri entre les personnes.
Pas selon moi.
En 2014, le pape François a promulgué là, la canonisation équipollente, je ne me trompe pas, de François de Laval, comme un message à notre génération. Nécessairement, quand on canonise quelqu'un, on envoie un message à toute l'Église, à l'Église universelle, à l'Église locale aussi, en disant « Voici quelqu'un qui a suivi le Christ jusqu'au bout ». En quoi François de Laval peut être inspirant pour quelqu'un qui le découvre aujourd'hui, que ce soit un croyant ou peut-être même pour un non-croyant, Sœur Doris?
Oui, il y a toujours deux vitraux qu'on retrouve au séminaire de Québec que je trouve très inspirants, qui me semblent être la cohérence de ce qu'a été l'homme de Monseigneur de Laval, de l'enfant de 8 ans qui commence à l'école du Collège de la Flèche jusqu'à sa mort à 85 ans. On le voit au pied du Saint-Sacrement, donc se lever tous les jours, son assiduité à la prière, mais une vie de foi qui s'incarne au chevet des malades. Donc, fait que le prochain... Fait que l'amour du prochain est comme inconditionnel à l'amour de Dieu. C'est comme... Moi, j'ai toujours dit que c'est comme ces deux poumons là, qui se parlent constamment. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et c'est la cohérence. Tu sais, Monseigneur de Laval, quand il va être à l'Ermitage de Caen, il va quitter la prière et la cesse pour aller défendre les intérêts des religieuses qui avaient une problématique. Donc, il va sortir de sa prière. À la fin de sa vie, il va dire, ben, si j'ai plus d'argent à donner aux pauvres, je suis aussi bien mourir. Donc, il a tout donné. Mais à un moment donné, il va dire, ben, il va demander à celui qui l'accompagne, le frère au sort, j'ai-tu encore de quoi donner, vous n'avez plus rien, mais si j'ai plus rien, j'ai moins à mourir. Donc, moi, je dirais sa grande cohérence entre ce qu'il, la foi ou les valeurs qui le faisaient vivre et sa capacité de les défendre jusqu'au bout, jusqu'à perdre sa propre réputation. Tu sais, quand dans l'intérêt, ça ne le dérange pas là, que le gouverneur ne soit pas d'accord, puis que le lieutenant, puis tu sais, il y en est. Parce que même quand il arrive en Nouvelle-France, et s'il en est, je le signerai de mon sang. Il est déjà prêt à mourir pour la cause du Christ.
Ça lui confère une très grande liberté, tout
oui,
ça. C'est...
Oui.
Valérie, oui.
Quelle mine d'or, cette Sœur Doris, les anecdotes à profusion. J'ai eu la chance d'organiser puis de vivre avec un groupe de jeunes un pèlerinage sur les traces de François de Laval il y a déjà une bonne quinzaine d'années. Et puis, on parlait de comment il peut nous parler aujourd'hui. Puis moi, ce qui m'avait le plus touchée, François de Laval, pour moi, c'est l'audace. C'est vraiment à travers toutes les péripéties qu'il traverse, les choix qu'il pose, l'audace, le courage d'essayer du neuf, d'aller au bout de la cohérence qu'il veut concrétiser. Ça m'a bien marqué. Puis ça me donne du courage à l'époque qu'on traverse aujourd'hui comme Église, comme société. Ça en prend.
Oui, parce que dans les tempêtes, on peut... Ben, parfois, c'est la bonne chose à faire, mais on peut aussi être plus prudent ou battre en retraite. Mais lui, siècle fou, il est allé de l'avant puis il a foncé. Hein.
Quitter ses repères, quitter la France, go, on change, on traverse.
Sœur Doris?
Ben, je pense que quand j'ai travaillé là, sur le deuxième livre, là, l'actualité des repères, ce qui m'a frappé dans les choses qui ont pu l'inspirer, moi, c'est le terme que j'utilise, c'est racines profondes. Parce que, ou bien, tu sais, la maison bâtie sur le roc, là, qui dans l'image de l'Évangile, qu'il arrive la tempête, tout ça. C'est sûr que dans toute vie humaine, à un moment donné, tu es mesuré à l'adversité ou aux difficultés. C'est pas vrai, là. Une vie sans conflit, sans tempête, ça n'existe pas. Et c'est là que en termes un peu québécois, on dirait qu'il était grandé. Tu sais, il était enraciné dans quelque chose de plus profond. Il y avait une raison d'être, il y avait des valeurs, la présence du Christ. Tu sais, puis c'est sûr qu'à l'Ermitage de Caen, là, toute l'adoration, puis le recentré, puis le pur abandon. Donc, il a créé cette habilité à travers ce qui est contraire, comme à ce contraire à la volonté de Dieu, ou faire taire en soi l'égoïste pour s'enraciner en profondeur. Tu sais, là, c'est vraiment proche de ce qu'on dit en termes un peu plus... théologique, la kénose, là, tu sais, le Christ Jésus ayant la condition de Dieu, il s'anéantit.
L'anéantissement
ici, c'est pas... c'est pas, je dirais, ne plus être qui on est. Au contraire, c'est être pleinement soi, mais s'enracinant dans plus fort que soi. Mmh. Tu sais, quand on regarde tâcher de trop espérer ou de trop désespérer dans le conseil aux missionnaires, Monsieur de Laval, il va dire ça aux missionnaires, tâcher d'éviter de trop espérer ou de trop désespérer. La problématique est dans le trop. Donc, il faut que tu trouves l'équilibre. Donc, c'est l'homme qui a toujours sous-pesé puis se recentrer. Dieu est notre centre et notre tout. C'est le royaume qui est au-delà de l'âme qui fait notre centre et notre tout. Donc, c'est pour ça que je disais l'épopée mystique. Notre centre et notre tout, c'est ça qui permet de tenir à tout être humain, indépendamment de son enracinement à l'intérieur.
Ça a été ça le carburant de cette épopée mystique, Simon?
Moi, j'ai découvert François de Laval en lisant un livre de Sœur Doris, un petit livre accessible à tous qui s'appelle « Prier 15 jours » avec François de Laval. Puis là, je ne m'en souviens pas parce que tout au complet, là, parce que ça fait longtemps, mais je me souviens que ce qui m'avait frappé, vous l'avez mentionné, c'est le pur abandon, cette spiritualité de l'abandon et du détachement. Mmh. Moi, je suis un anxieux, puis je pense qu'on est dans une société anxiogène aujourd'hui, puis j'ai l'impression que ça, c'est aussi un point très actuel. Il nous enseigne vraiment à être détachés puis faire confiance que Dieu gouverne les choses et que ce n'est pas nous qui pouvons tout contrôler.
C'est vrai que c'est pertinent pour aujourd'hui. Et c'était très pertinent aussi ce que vous nous avez raconté, Sœur Doris, sur François de Laval. Je rappelle que vous êtes petite franciscaine de Marie, grande passionnée du premier évêque de Québec, François de Laval, dont on célébrait cette année le 400e anniversaire de naissance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on poursuit la discussion avec vous, si vous le voulez bien.
Merci.
Merci.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
Simon Lessard, clairement, François de Laval est l'une des figures les plus connues de l'Église ici, mais c'est loin d'être la seule personne à avoir influencé le cours de l'histoire, de notre histoire collective.
Oui, bien, plus près de nous, je dirais, il y a d'autres figures, les grandes figures du diocèse de Québec qui sont, je pense, méconnues du grand public. Bon, peut-être connues de Valérie et Sœur Doris, puis même de toi, Antoine. Vraiment, la première figure qui a retenu mon attention dans l'histoire du diocèse de Québec, c'est Colette Sanson. Donc, elle est née en 1923 et est décédée en 1991. C'est quand même vraiment plus proche de nous. Elle est vraiment importante au niveau du soutien aux itinérants, aux exclus de notre société. C'est intéressant, là, elle est née dans un milieu aisé de Lévis. Elle a fait des bonnes études, elle s'est intéressée au chant choral, au théâtre. Puis elle s'est mariée, puis elle a eu deux enfants, donc une femme laïque. Et puis, elle est devenue veuve à 50 ans. Et puis là, il y a toute une nouvelle vie qui s'est ouverte devant elle. Donc, si vous avez plus de 50 ans, hein, il n'est pas trop tard pour...
avoir des projets.
Exactement, et poursuivre la sainteté. Donc là, elle a commencé à ressentir un vide. Évidemment, on peut comprendre qu'elle était en deuil. Et puis, elle a supplié le Seigneur de lui faire trouver le vrai sens de sa vie ou le nouveau sens de sa vie, étant veuve. Et puis là, avec un groupe de prières qui s'appelle La Rencontre, elle a commencé à visiter des détenus. Elle a été touchée par leur histoire. Puis, elle a vu aussi leur grands besoins. Et elle s'est sentie appelée à les servir, ces détenus-là. Et puis, ça l'a amenée à fonder la Maison Revive en 1978, maison qui existe toujours, pour accueillir des hommes, entre autres, sortis de prison, des sans-abri, des affamés. Donc, je trouve que c'est vraiment une figure très inspirante que cette Colette Sanson.
Ouais, j'ai eu l'occasion de faire un reportage là, il y a quelques années sur la Maison Revive. Puis, ce qu'on m'expliquait, c'est que elle était un peu choquée de voir les hommes sortir de la prison puis avoir nulle part où aller. Donc, ça prenait une espèce de point de chute ou un endroit où ils pouvaient reprendre leur souffle avant de ben, c'est comme une espèce de maison de transition, en quelque sorte, mais où les personnes étaient accueillies intégralement. Je ne sais pas si...
J'ai eu la chance même de la voir parce que j'ai un novice, je suis allée, puis la maîtresse de novice avec qui j'étais était proche d'elle. Ce qu'elle voulait surtout, c'est de donner une adresse. Parce que souvent, les personnes qui sont assistées sociales, ils ont besoin, pour avoir le chèque, qu'ils aient une adresse fixe. Donc, la Maison Revive, ça permettait à ces personnes-là d'avoir une adresse fixe. Quand tu es sans-abri, tu n'as pas d'adresse.
Ben
donc, en ayant cette maison-là...
De briser ce cycle-là.
Je me souviens d'être allée à la Maison Revive et de voir les casiers là, pouvait rentrer l'adresse fixe pour que les personnes aient une adresse postale.
Ah ouais, c'est bien, bien concret comme aide.
Elle avait le souci aussi, du réveil spirituel des gens qui peuvent se grandir dans l'estime de soi, surtout un prisonnier, un ex-prisonnier. On peut penser que l'estime de soi est très attaquée. Et puis, j'ai été très touchée aussi de réaliser que je pense que son approche, c'était aussi de se lier d'amitié, c'est-à-dire c'est-à-dire pas juste offrir des services à des gens dans le besoin, mais au début, elle vivait même avec eux, là, dans la maison. Donc, il y a vraiment l'idée de faire communauté avec ces gens-là. Donc, je pense que ça, ça peut nous lancer un message pour aujourd'hui. C'est pas juste de, je dirais, bon, ben, j'ai donné de l'argent ou j'ai rendu un service à une personne dans le besoin, mais je me lie à cette personne-là.
Génial. Alors, c'était Colette Sanson, une figure, oui, trop méconnue, mais il n'y a pas un procès de canonisation qui est ouvert.
Oui, il y a quelque chose, oui.
Alors, on risque d'en entendre parler encore pour quelques années. Là. Merci, Simon, pour cette introduction à cette personnalité formidable. Quelqu'un d'autre qui a marqué ton attention?
Le père Léon Provencher. Donc, lui, il est né en 1820, décédé en 1892. Je dirais que c'est une figure marquante au niveau des sciences naturelles. Puis là, c'est vraiment intéressant parce qu'on pourrait dire un prêtre et sciences. Ben oui, déjà, c'est une figure qui nous montre que les deux ne sont pas incompatibles, foi et science. Il est originaire de Bécancour, donc il faut savoir qu'à l'origine, ça faisait partie encore du diocèse de Québec. Aujourd'hui, je pense que c'est dans le diocèse de Nicolet. Oui, c'est ça. Il a été ordonné prêtre à 24 ans. Puis là, c'est intéressant parce qu'au début, il a servi en paroisse, mais il paraît qu'il avait un caractère un peu difficile puis que ça y a attiré pas mal d'ennuis. Je pense qu'il y a eu
un changement de carrière.
Mais bon, il y avait d'autres intérêts. Il s'intéressait aussi beaucoup à la nature. Ouais. Et donc, il a commencé à se spécialiser de plus en plus dans l'étude de la botanique, de l'entomologie. Puis, il a publié de nombreux ouvrages spécialisés en botanique, entre autres son traité élémentaire de botanique, qui est le premier ouvrage du genre dans tout le Canada. Il a publié aussi le catalogue des arbres fruitiers et son œuvre maîtresse, le verger canadien, rempli de renseignements utiles pour réussir la culture des fruits et légumes. Et puis, c'était un scientifique, un prêtre qui était aussi, je dirais, engagé socialement. Donc, il a interpellé les législateurs à plusieurs reprises pour aider les agriculteurs. Il a fondé un couvent, un pensionnat pour jeunes filles. Il a aussi livré bataille contre l'alcoolisme. Et il a fondé la première grande revue scientifique francophone en Amérique du Nord. Cette revue qui s'appelle Le Naturaliste canadien, il l'a dirigée presque jusqu'à sa mort en 1891.
Elle existe encore, cette revue?
Non.
Ben, en fait, elle existait jusqu'en 2019, je suis allée vérifier, mais elle a été publiée très longtemps dans 40 pays. Entre autres, c'était l'Université Laval là, qui la publiait dans les dernières années.
Une sorte de père Marie-Victorin.
Oui, on pourrait dire ça, exactement. Puis il y a toujours à Cap-Rouge où il s'est installé là, à partir de 1872. Il y a la maison Léon Provencher qui rappelle son œuvre puis qui propose des expositions, des activités là, pour faire de la vulgarisation au niveau des sciences naturelles.
Et moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de lui parce qu'ils ont un camp d'été pour les enfants. J'ai un ou deux enfants qui ont passé un été en camp de jour là, pour toutes des expériences scientifiques chaque jour, du temps dehors à explorer le marais. Il y a vraiment un héritage, ce gars-là. C'est incroyable. Alors, ça a piqué ma curiosité, moi aussi. Puis c'est de voir comment des croyants dans toutes les sphères de la société ont laissé un héritage, ont porté du fruit. C'est beau.
Super legs, très fécond. On a peut-être deux petites minutes pour parler de, non pas d'une, mais de deux personnes qui ont...
Un couple laïque marié, Alphonse et Dorimène Desjardins, sont plus connus, évidemment, parce qu'ils ont fondé le mouvement Desjardins, les caisses populaires Desjardins.
Mais connus, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment d'eux, Simon? Tu sais, je ne sais pas à quel
je
point
sais pas,
on
connaît le nom. Hein?
C'est ça.
Ben, je pense, la première chose, il faut savoir qu'Alphonse, lui, il a travaillé au Parlement de Québec. Il était...
sténographe, quelque chose
Quelque chose comme ça, là. Et puis, c'est là qu'il a assisté un jour à un débat sur les prêts usuraires, donc les gens qui demandent des taux d'intérêt beaucoup trop élevés. Puis ça l'a scandalisé. Puis il a cherché une situation à cette injustice-là. Puis il s'est rendu compte que le gouvernement de l'époque ne réussissait pas vraiment à régler les vrais enjeux sociaux. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est mieux. Mais lui a dit qu'il faut trouver une autre solution. Puis il était très inspiré par le pape de l'époque, Léon XIII, qui venait de publier Rerum Novarum, donc une encyclique centrée sur la justice sociale. Et peu à peu, dans ses recherches, il a découvert le mouvement coopératif. Et là, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a fondé dans sa propre maison la première caisse populaire très étroitement avec son épouse. Donc, c'est vraiment une œuvre à deux avec Dorimène, son épouse, qu'ils ont fondé ça pour donner accès à du crédit d'une manière socialement, je dirais, humaine, responsable et sans abuser des petites gens. Et puis Dorimène, il faut savoir quand même qu'en même temps qu'elle gérait la caisse, elle s'occupait aussi d'une famille de plus de 10 enfants. Donc, ça, c'est pas rien. Puis elle a fait plein d'autres choses d'origine aussi. Elle a fondé l'œuvre du pain qui était destinée à nourrir des pauvres de la paroisse, l'œuvre des cierges qui, elle, collectait des fonds pour les besoins religieux, intellectuels et physiques des jeunes, les loisirs, on pourrait dire, des jeunes à l'époque. Donc, vraiment, c'est... Puis aussi...
Ça dormait pas, ce monde-là, je comprends pas.
Il y avait combien d'heures dans les journées? Il n'y avait pas de TV ni Netflix.
On gagne des heures comme ça dans une journée. Exactement. C'est vrai.
Puis ils ont été beaucoup aidés par le clergé de l'époque aussi. Ah. Donc ça, c'est très important. C'est tout le soutien à l'époque du clergé qui a permis au mouvement Desjardins de devenir aujourd'hui le plus grand mouvement coopératif francophone, je crois, au monde, en tout cas certainement en Amérique.
Moi, ce qui me frappe toujours dans cette histoire-là, c'est que c'est l'économie du petit peuple. Parce que Desjardins, c'est ça, là, il commence, oui, dans sa maison, puis après ça, c'est dans le monde rural, puis chaque caisse, chaque village avait sa caisse populaire. Donc, ça montre que quand les gens se mettent ensemble à la base, tu peux être à l'origine de quelque chose de plus grand. C'est la solidarité. Puis là, quand tu dis, ça me frappe, quand on dit le besoin, l'attention, puis là, l'ingéniosité, puis là, on commence puis de rien, parce que tu sais, de commencer ça dans sa maison, puis aujourd'hui, tu peux voir l'expansion que ça peut avoir. T'sais. Tantôt, tu parlais de la maison revive, ça commence un peu, puis, mais ça existe encore. Donc,
ne pas se décourager devant un problème qui pourrait nous apparaître beaucoup trop grand en disant que de toute façon, si je fais une petite œuvre, ça ne changera pas le monde.
Bien, c'est ça. Tu sais, je veux dire, faut toujours commencer par un premier pas. Puis le premier pas, quand tu le fais avec d'autres, bien, tu sais, je dis le premier pas. J'ai participé récemment à la marche de Pierre Lavoie. Je me dis, bien, tu sais, tu commences, tu as une idéologie, puis à un moment donné, tu n'entraînes d'autres. Fait que je pense que, tu sais, il faut croire en des capacités charismatiques. Et il faut croire à la potentialité, puis souvent, ça commence par la base.
Ça ressemble au le Chris avec 12 de ses chums, puis quelques saintes femmes autour, puis ils ont parti un grand mouvement qui réunit plus d'un milliard de personnes aujourd'hui.
Bien, c'est pas loin de ça.
Merci beaucoup, Simon.
Ça fait plaisir, Antoine.
Valérie Robert-Gidion, le 8 décembre 2023 sera le coup d'envoi des festivités du 350e anniversaire du diocèse de Québec. Au cours des derniers mois, tu as travaillé avec toute une équipe, dont Mgr Pelchat, qui coordonnait le comité des fêtes, pour préparer une programmation assez riche pour tout l'avenir qui s'en vient. Alors, ma première question est peut-être un peu mal commode.
C'est pas ton genre, ça.
Ben non, pas du tout. Avant d'aborder les raisons de célébrer, là, on y viendra assurément... J'en doute pas. Il y en a qui en a plusieurs. Il faut quand même avouer, si on est honnête, qu'il y a plusieurs raisons de ne pas fêter. Valérie, j'aimerais t'entendre là-dessus.
Ça a été un bon casse-tête, ça, depuis le tout début de notre réflexion. Comment on aborde ça? Il y a un anniversaire, un chiffre rond 350, il faut le souligner. Est-ce qu'on peut ne rien faire? Mais comment faire? Quoi faire? Pourquoi? C'était assez embêtant parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui a le cœur à la fête ces années-ci, et dans l'Église, et dans nos relations avec l'ensemble de la société. La décroissance de l'Église, tous les défis, transitions, les deuils qu'on doit vivre dans les communautés chrétiennes, c'est pas facile. Les défis financiers, les défis de valorisation du patrimoine religieux, toutes les blessures dont on hérite liées aux abus en Église, c'est encore très douloureux.
Des relations parfois houleuses avec les Premières Nations aussi.
Les relations avec les Premières Nations, tout ce chemin de guérison-là qui avance très, très lentement, mais sûrement. Et aussi tout notre rapport à l'histoire globalement comme société, là, on n'est pas... apaisé du tout. Là, quand on repense à notre héritage catholique, il y a beaucoup de gens qui disent hey, « bon débarras, c'est derrière nous ».
Tu parlais d'adolescence tantôt, là, du collectif, là, on n'est pas tout à fait sorti encore.
On entend beaucoup, heureusement qu'on est sorti de ce carcan-là aujourd'hui. Ben oui. Alors, il y a tout ça à accueillir. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est mis à l'écoute des gens. On a écouté beaucoup de monde en paroisse, autour de nous, des gens moins familiers avec l'Église aussi, pour voir bien, qu'est-ce qu'il y a à vivre là, pour 350 ans. Et les choses qui ressortaient, il y avait un désir de vivre quelque chose, une conviction qu'il y a moyen de vivre quelque chose de beau, de fructueux aussi au cours de l'année. Dans les communautés chrétiennes, ce qu'on entendait, c'est un désir de se donner de l'élan là, dans toute cette transformation qu'on a à vivre. Donc, d'essayer de vivre une année charnière où on fait le point, on se relance, on s'encourage. sur le plan spirituel aussi, c'est toute la question de la gratitude. C'est pas rien comme croyant de remercier le Seigneur d'avoir été avec nous pendant 350 ans, de lui demander de l'aide pour la suite.
Ça me touche, Valérie, la gratitude, parce que je pense qu'on a tendance à... C'est un des défauts de notre peuple, l'ingratitude par rapport à nos prédécesseurs au passé. Puis il n'y a pas de vraie joie sans la gratitude, parce que sinon, on ne voit que le négatif tout le temps. Puis la gratitude, je trouve, c'est une conversion du regard. Moi, en tout cas,
c'est un mot-clé qui m'a vraiment allumé, parce que dans notre façon d'être en relation aussi en société, il me semble que c'est quelque chose aussi de consensuel, le fait qu'on peut... C'est important, le devoir de mémoire, la gratitude envers les gens qui ont posé les bases de ce qu'on a aujourd'hui. Je pense à Marcel Mallette, qui a fondé, qui a dévoué toute sa vie pour les personnes dans le besoin. Aujourd'hui encore, la maison Mère Mallette qui existe, portée par la Fondation Jules Dallaire, c'est énorme. C'est 25 organismes communautaires dans le même édifice.
Marcel Mallette qui est à l'origine des Sœurs de
qui était Sœurs de la Charité
de Québec,
ouais. Effectivement. Alors, c'est tout naturel de dire merci à ces gens-là. Donc, il y a ça qu'on veut vivre. Puis dans l'espace public, c'est peut-être une occasion aussi de dialogue et d'ouvrir nos oreilles, de s'ouvrir en mode écoute, d'entendre les interpellations, de proposer des activités aussi où on se rencontre, où on peut peut-être venir démystifier qu'est-ce qu'on est comme communauté actuelle, là, présenter des activités intéressantes, mais aussi se rencontrer et puis se découvrir, peut-être aborder autrement les défis du vivre ensemble, là, trouver des façons un peu plus sereines de s'intégrer.
Simon?
Ah, mais en écoutant Valérie, je me disais, moi, quand je célèbre ma fête ou la fête d'un ami, je ne suis pas en train de dire que toutes ces années de vie étaient parfaites sans aucune erreur, mais je dis, tu as du prix, je rends grâce pour le fait que tu vives malgré ton parcours rempli d'ombre et de lumière. Donc, moi, je pense que fêter une église, une communauté, c'est pas dire que tout était parfait. C'est reconnaître, je pense, que c'est un don qu'il faut chérir.
La question de la communauté, elle nous a ressorti largement aussi dans toutes les consultations qu'on a faites, c'est de voir l'Église comme une famille, une communauté de gens qui ont fait beaucoup de choses extraordinaires, plutôt que de la voir comme une institution géographiquement limitée de voir, mais plus globalement, on se situe dans un réseau de personnes. Tu t'intéressais à ces personnes-là. Est-ce que j'aime l'histoire? Oui, et j'aime l'histoire en découvrant des visages particulièrement. Ça, c'est tout à fait vrai.
C'est souvent ça. Le problème de l'histoire, c'est que même moi, là, quand j'ai commencé dans des textes de Mgr de Laval, je me disais, bon, il y a ceux qui en parlent en 1990, mais ceux qui peuvent plus en parler, c'est celui-là qui l'ont connu. Donc, c'est les écrits. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est toujours aller à la source. Tu sais, des fois, là, on entend des affaires, mais c'est pas la vraie histoire. Tu sais, fait qu'il faut, je pense, aussi développer un regard critique pour aller chercher c'était quoi la vraie histoire. Tu sais, tantôt, tu as parlé d'Alphonse Desjardins. Si tu vois le mouvement Desjardins aujourd'hui, puis la grosse patente que tu vois à Lévis, tu dis, bon, OK, mais quand tu vois c'est commencé modestement dans sa maison, oh là, avec une intuition. Fait, moi, je dis, il faut retourner à la racine de bien des choses pour comprendre, pour mieux comprendre. Puis pas toujours là, juste écouter ce qui est dit dans l'interprétation, parce que des fois, dans l'interprétation, selon le regard, c'est faussé. C'est comme dans une famille. Tu sais, t'as un père puis t'as une mère, puis tu te mets à changer, puis on n'a pas les mêmes souvenirs, puis on n'a pas la même lien, puis on n'a pas la même relation. Puis des fois, tu dis, j'avais pas vu ça comme ça. Puis des fois, il y en a qui sont plus blessés que d'autres. Puis il y en a qui ont dit, ben moi, ça m'a pas dérangé. Je pense qu'on a besoin... Moi, je trouve qu'au niveau du 350e, c'est une occasion de visiter ce dont on est héritier. Puis d'honorer... Il y a d'autres pays qui honorer les ancêtres, c'est important. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, on va tous devenir vieux. Mais un jour, on a tous été... Ben, puis un jour, on a tous été jeunes. Fait que tu sais... c'est ça. Il y a une chose que j'ai pas dit sur Mgr de Laval que je me permets... Quand il meurt, ils ont dit, est-il possible qu'il soit mort, cet homme qu'on avait tant de plaisir à voir vivre? On l'a enfermé dans une image austère. Parce que souvent, est-il possible qu'il soit mort, cet homme qu'on avait tant de plaisir à voir vivre? C'est pas l'image que bien du monde ont eue. Non, mais son contemporain, lui, c'est ça qu'il a écrit. Ben, lui, il l'a connu, il a vécu avec.
Mépriser nos prédécesseurs, nos parents, nos ancêtres, c'est se mépriser soi-même, au fond. Parce qu'une grande part de ce que je suis aujourd'hui, je l'ai reçu, je l'ai hérité. Donc, je pense qu'il faut faire très attention d'avoir un regard seulement noir sur le passé.
Ça prend, revisiter le passé, ça se fait, c'est pas de tout repos, hein, parce qu'il y a des zones d'ombre importantes, des choses très douloureuses, mais il y a vraiment beaucoup de beau aussi. Juste simplement dire que ça prend des nuances. Il faut de se remettre en contexte. Ça amène toutes les nuances qui sont nécessaires. De la beauté, j'en ai vu dans tous les personnages que j'ai découverts. Moi, m'intéresser à Marie de l'Incarnation, ça a été une révélation dans les derniers mois. Je me suis dit, aïe aïe, je la prends comme grande sœur, cette fille-là, cette gestionnaire, tellement enracinée. Puis pour elle, la spiritualité, c'était une question quasiment de respiration, de souffle, hein, puis qui portait toute son action, son dévouement. Alors, il y a un émerveillement. Puis je souhaite à tous les gens de peut-être vivre des étonnements pareils en relisant l'histoire, en s'intéressant à nos prédécesseurs.
On est un peu dans la double ignorance. Là, on pense qu'on sait on pense qu'on connaît notre histoire, mais comme tu dis, d'aller plus en profondeur, découvrir des personnages comme ça, on réalise que oui, on connaissait le nom, mais qui était vraiment cette femme-là, cet homme-là, ça devient vraiment plus intéressant. Valérie Roberge-Dion, je vois le temps filer, là. j'aimerais que tu nous dises on est déjà à parler du regard que tu portes sur l'avenir. Je pense au fait du 400e qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Ça a quand même dynamisé la fierté qu'on a dans la ville de Québec ici. Ça a été un pont vers les années suivantes. En quoi ces fêtes-là peuvent être une espèce de point tournant ou de tourner notre regard vers les prochaines années à venir, les 350 prochaines années du diocèse?
Je pense vraiment, et on l'a entendu des gens sur le terrain, qui souhaitent en faire une année catalyseur, une année où on se réoriente, on se laisse porter, on se laisse inspirer, on discerne ensemble vers où on veut aller. On va organiser, par exemple, une journée sur la vulnérabilité. Comment on se sent aujourd'hui, alors qu'on fête nos 350 ans, alors qu'on vit tant de dépouillement comme Église? Qu'est-ce que ça nous fait vivre? Qu'est-ce que ça l'ouvre comme porte?
Donc, c'est un exemple. On n'est pas dans des festivités triomphalistes du tout, là.
C'est quelque chose qu'on a écarté d'emblée, d'être dans le faste. Alors, c'est plutôt ce type d'événement qui peut être porteur, nous aider à réfléchir, à nous relancer aussi. Puis oui, mais l'aspect de fête peut vraiment faire du bien aussi, je pense.
Surtout quand ça va mal, il me semble que c'est là qu'on a le plus besoin de fêter.
C'est la dimension communautaire aussi qui tisse serré puis qui nous donne de l'élan. Moi, je travaille là, à mon âge là, pour l'Église de demain, pour que mes enfants puissent avoir la chance de vivre l'Évangile en communauté. Donc, je suis très, très motivée à ce que ça puisse être quelque chose de contributif. J'ai imaginé tout plein de cadeaux que je souhaite là, à notre Église pour la suite des choses.
Par exemple?
De la fraîcheur, de l'audace dans ces projets de renouveau, mais aussi beaucoup d'écoute, beaucoup pour être une interlocutrice qui est vraiment en dialogue avec l'ensemble de la société, du courage pour faire partie de toutes les luttes au niveau social qu'il faut mener. Donc, ce ressort-là en nous, ce dynamisme-là de l'Évangile nous aide à nous tenir debout. Voilà quelques-uns de mes rêves.
Ah, c'est des beaux, très beaux rêves. On a quelques minutes là, pour parler des moments forts de la programmation des fêtes de la prochaine année. Valérie Roberge-Dion, s'il y avait trois ou quatre là, événements qu'il ne faut absolument pas manquer, je pense entre autres aux gens qui nous écoutent de l'extérieur du diocèse de Québec qui vont peut-être être de passage à un moment ou l'autre des prochains mois, qu'est-ce que tu suggères?
Ça vaudrait vraiment la peine de planifier un petit tour à Québec en 2024. Ça va vraiment valoir le détour. Le 8 décembre 2023, on ouvre les fêtes. On a une belle extension de la fête sur la place de l'Hôtel de Ville avec le marché de Noël allemand.
On ouvre la fête dans la basilique cathédrale de Québec, mais il n'y a pas énormément de place. Donc, pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'entrer, ça déborde.
Oui, et il y a une fête populaire et tout un mélange de gens, une proximité avec tous les visiteurs du marché de Noël. Uh-huh. Une petite scène, de la musique. Alors, ça sera très beau à vivre.
Puis le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Puis si je ne me trompe pas, c'est la patronne du diocèse.
Exactement. Exactement. Et on ouvre la porte sainte. Alors, en 2024, il faut venir vivre la démarche, une belle démarche spirituelle intérieure, vivre un passage, une transformation et de le faire dans la foi, dans la confiance, ça peut être vraiment beau. Puis si vous venez faire l'expérience de la porte sainte, à partir de l'été, juste en face, il y aura une très belle exposition qui est en train d'être montée avec le Musée de la civilisation.
Ah ouais.
Alors, où on va sortir des perles, des trésors, faire connaître un peu l'histoire du diocèse. Et il y a tout ce pèlerinage qui s'est structuré ces dernières années qui permet d'aller de communauté fondatrice en communauté fondatrice. Là, tout est à distance de quelques pas dans le Vieux-Québec, les Ursulines, les Augustines, les Jésuites et la Basilique-Cathédrale Saint-François de Laval. Donc, il y a vraiment de quoi vivre vraiment une belle expérience, soit seul, en famille, en communauté, venez en autobus, ça va être super intéressant.
J'ai entendu parler aussi d'un pèlerinage sur le territoire du diocèse plus largement.
Je suis contente que tu le mentionnes. Faut pas que je l'oublie, c'est le pèlerinage Capoa.
Okay.
Donc, il part de la Malbaie qui rejoint la Porte Sainte à Notre-Dame de Québec. Donc, il y a des itinéraires proposés pour des plus ou moins longues marches, là, selon votre niveau de forme physique.
C'est une sorte de Compostelle chez nous.
Exactement, avec une démarche spirituelle qui peut être vécue, puis de l'hébergement pas trop cher ici et là, selon les budgets. Donc, on a déjà des gens un peu partout dans le monde qui se préparent à venir vivre ça. Il y a un réseau qui aime beaucoup les Compostelles. Alors,
Moi, je l'ai fait trois fois.
Mais lui, c'est pas ce nouveau chemin qui s'ouvre là, de la Malbaie jusqu'à Québec.
Oui, ça, je l'ai pas fait encore.
Non, mais c'est ça, il est nouveau, celui-là.
Ah, ben là, je vais le faire.
Donc, il faut que tu testes ça, Simon, puis que tu nous en reparles.
OK, moi, je peux être celui qui
le teste. Dès mai 2024, première cohorte.
Tu nous feras un compte rendu.
Oui, c'est génial. Et puis, une grande fête populaire en terminant, du 20 au 22 septembre 2024. Place Diouville, jeux gonflables, famille, tout ce qui est... De quoi faire une belle fête, là, et un concert du groupe français Glorious qui vient pour la première fois au Québec. On a déjà deux salles de remplies, le troisième concert en supplémentaire. Il reste quelques billets encore. Donc, si vous souhaitez vivre cette expérience-là qui allie foi et musique contemporaine, là, c'est très, très beau, très dynamisant.
Il y a des billets disponibles.
Théâtre Capitole, Glorious, vous allez trouver ça.
Génial.
Moi, tu me permets-tu de rajouter un mot? Je me disais, tu sais, quand moi je faisais présenter Monseigneur de Laval, je disais, on a un problème avec lui, il est mort. Donc, il a fait sa vie, lui. Tu sais, on peut s'en inspirer pour aujourd'hui. Je me dis, dans une fête comme ça, là, c'est nous qui l'habitons, la terre. Présentement, comme dirait le pape, la maison commune. On est en quête, mais on sait, je regardais le verbe, là, vous avez fait quelque chose sur le film Testament. Je me dis, c'est ça, tout être humain cherche pourquoi j'existe, pourquoi je suis au monde, c'est quoi le sens de ma vie. C'est une question...
Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je veux transmettre?
Ben, tu sais, c'est une question fondamentale. Moi, je dis, les fêtes du 350e, peut-être une occasion de te poser la question, mais chercher avec d'autres, jamais une réponse, parce que la réponse, on ne l'a pas. On la cherche encore, même quand on l'a. Mais il faut la chercher constamment. Puis quand ça donne du sens, tu dis, ah, toi, ça... moi, je l'ai fait aussi un bout du chemin de Compostelle. Tu sais, le chemin, on le fait tout seul, mais avec d'autres, on s'entraide, puis on la traverse. On traverse les tempêtes avec toujours la solidarité. Fait que moi, je dis, il faut que chacun porte ses questions, puis cherche avec les autres comment ils trouvent des réponses. Puis c'est comme ça qu'on creuse en soi, puis on finit par peut-être même être habité par une joie de vivre.
Eh, qui sait? merci, Sœur Doris. Merci aussi, Valérie Robert-Gillon, directrice des communications au diocèse de Québec. Ça donne le goût d'embarquer dans la fête, assurément.
Tant mieux.
Merci.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@letraitdunionverbe.com.
C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, allons-y avec les suggestions culturelles de nos chroniqueurs et invités. Simon Lessard, commençons avec toi.
Mais je l'ai mentionné plus tôt dans l'émission, mais moi, c'est vraiment...
On n'écoutait pas, vas-y.
Non, OK, ben, c'est vraiment le livre de Sœur Doris, là, « Prier 15 jours avec François de Laval ».
Ah non, on écoutait,
oui. Ben, moi, ce petit livre-là, tu sais, c'est 15 petits chapitres. Fait que tu peux dire, je me fais comme une petite retraite à la maison à chaque jour, le matin, mettons, j'en lis un, puis je prie comme c'est bref, avec des extraits, des écrits de François de Laval. Je trouve que c'est la meilleure manière accessible à tous de découvrir le cœur de sa spiritualité. Donc, « Prier 15 jours » par Sœur Doris Lamontagne.
Publié chez Nouvelle Cité en 2019. Merci, Simon. Valérie, une suggestion pour
Ben, nos j'invite tout le monde à visiter le site web fête au pluriel 350.ca, fête350.ca. Puis c'est là-dessus qu'on dépose toutes les nouvelles en cours d'année sur les détails de participation aux activités. Il y a aussi un cycle de conférences puis un cycle de concerts aussi variés qui va être proposé. Donc, voyez tous les détails sur ce site.
J'ai entendu dire qu'il faut avoir un magazine, ou qu'il y a un magazine même qui circule déjà sur les fêtes du 350e. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans en 30 secondes?
On a des reflets, on a appelé ça reflets d'hier à demain, donc de la matière sur tout notre passé, sur l'Église d'aujourd'hui, puis une réflexion sur l'Église de demain, avec au centre la programmation officielle des fêtes.
Bingo. Merci Valérie beaucoup. Merci beaucoup Valérie, dans le bon ordre. Sœur Doris, vous avez une suggestion de lecture aussi pour nous concernant François Laval, évidemment.
Ben, si tu n'y avais pas trop pensé, mais ils ont lancé récemment le site Anima, le Centre Monseigneur de Laval, dans les fêtes du 400e, qui met vraiment, c'est comme une bibliothèque, tout ce qui est accessible, c'est nouveau, là.
Ah ouais.
Anima, moi. Donc, c'est un recensement de tous les écrits. Donc, c'est une bibliothèque numérique qui vient d'être lancée récemment sur Monseigneur de Laval. Si les gens veulent lire, bien, il faut aller au Centre Monseigneur de Laval. Il y a trois documents qui ont été lits, là. Monsieur Bureau, c'est plus l'aspect historique. Herman Giguère, c'est plus les textes spirituels. Puis moi, oui, il y avait le prier 15 jours, mais en 2016, je pense, j'ai fait Actualité des repères missionnaires de Monseigneur de Laval. Donc, là, c'est vraiment une relecture de la pratique de Monseigneur de Laval en contexte de mission.
Et tout ça a été publié par...
Par le Centre Monseigneur de Laval. Donc, la source, c'est à la cathédrale parce que le centre est à l'intérieur de la source. Quand on fait Centre d'animation François de Laval avec Google Recherche, j'allais tout trouver ça.
Génial. Merci beaucoup, Sœur Doris.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup à tous d'avoir été présents à cette émission. Je remercie les chroniqueurs Simon Lessard, notre invité Valérie Robert-Gidion et Sœur Doris Lamontagne, petite franciscaine de Marie, qui nous a présenté généreusement François de Laval. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission en tout temps, soit en balado, sur Spotify, c'est quoi les plateformes?
YouTube, Facebook.
Ben ouais, tu connais ça, toi, ces affaires-là.
Puis toutes les suggestions qui ont été mentionnées vont être mises aussi dans les commentaires pour ceux qui veulent les retrouver.
Exactement. On retrouve, donc, on peut partager aussi l'émission sur Facebook, sur vos plateformes préférées. Pour tous les détails, visitez leverbe.com et je remercie Marianne Martin, Marie Laliberté et Barthélémy Rieux à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont n'est pas du monde.